L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous, bienvenue sur BFM Business et l'atelier numérique et bon week-end. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque samedi, 2 heures entières dédiées aux nouvelles technologies et à l'économie numérique avec au menu de ces 2 heures. Plein de bonnes choses. Tout à l'heure, le Silicon Carnet, le cyber gadget d'Antoine. Antoine qui est d'ores et déjà avec nous et qu'on salue d'ores et déjà. Bonjour Antoine.
Bonjour.
L'un des piliers de l'atelier. Mon cher Antoine, tout à l'heure, on retrouvera le crash test. On parlera de quoi dans ce crash test ?
On parlera de vert coquin.
De vert coquin ?
On parlera de vert coquin.
Mais la couleur verte ou un
non,
vert ?
Non, de vert coquin.
D'accord, mais vous en dites pas plus.
Non, mais vous verrez, il y a même des implications qui ne sont pas totalement dépourvues de lien avec la préhistoire de la geekitude.
Oula ! Eh bien, dites-moi, restez jusqu'à la fin hein, pour avoir le fin mot de l'histoire quand même. On retrouvera aussi notre focus start-up. On s'intéressera à la start-up Awaken qui met la sécurité au cœur de la voiture connectée. On évoquera aussi les DRH. Comment prennent-elles le virage du numérique ? Notre web stratégie, on parlera de bâtiments connectés. Et à l'occasion de la Paris Games Week, on s'intéressera à l'art et l'histoire dans le jeu vidéo. World Tour, French Tech Tour, l'actualité vue par Zeronet.com, Eric Le Bourlou aussi. Et puis le décryptage tout à l'heure avec Louis Tressard. Mais pour débuter donc, vous le savez, l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Et je suis très heureux d'accueillir dans ce studio Constance, Aurore, Guillaume, deux Guillaume d'ailleurs, puisqu'on en a un ici, c'est Guillaume de Groix. Salut Guillaume.
Bonjour.
Et puis Guillaume Renoir qui lui est à l'atelier US. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, c'est la première fois et la dernière fois que j'accepte deux Guillaume en même temps dans l'émission. Vous vous débrouillez, vous changez de prénom, d'accord ?
Okay. On verra ça sur le planning.
Voilà, mais je plaisante bien évidemment. On va commencer, tiens, par Constance qui va nous donner sa petite news. Bonjour Constance.
Bonjour François.
Alors, on y va.
Alors, moi j'ai une question pour vous.
Allez-y.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rentrer dans un magasin et de ne pas savoir quoi choisir ?
Ça m'arrive tous les jours.
Jamais.
Alors, Uniqlo.
C'est vrai ?
Oui.
Alors, comment vous faites, Constance ?
Uniqlo a la solution pour vous. Bon, elle est à Sydney, la solution, dans quatre boutiques de Sydney.
Oui.
Qui, en fait, Uniqlo vous propose de mettre un casque avec des électrodes sur votre tête.
Un truc sympa, quoi.
Et en fonction de vos émotions, de vous proposer une sélection de 4 t-shirts sur mesure.
D'accord.
Alors, ensuite, la personnalisation continue, car l'entreprise Uniqlo va vous montrer les différents t-shirts qu'ils ont réussi à capter grâce à votre niveau de stress, de somnolence ou au contraire de bonne humeur. Et en fonction, encore une fois, des réactions que vous allez avoir, vous proposez un dernier t-shirt que vous pourrez acheter. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance d'être à Sydney en ce moment...
C'est vrai que là, franchement, je regrette.
Voilà,
hein, pouvoir tester
c'est dommage.
Ce masque-là, vraiment, franchement...
Il est possible de le faire sur Internet en remplissant un petit questionnaire qui vous donne ensuite voilà, votre humeur et donc un t-shirt sur mesure. Et fini donc les longues heures à choisir voilà, ce t-shirt vert d'eau ou rose, etc.
Eh bien, dites-moi, ils ont travaillé beaucoup chez Uniqlo pour avoir cette idée ou... Oui, j'ai l'impression quand même. Hein.
A priori, oui.
Bon, parfait. Guillaume de Groix dans notre studio. Guillaume,
alors,
on va parler d'Apple aujourd'hui.
On va parler d'Apple. C'est le... sujet de la semaine, les chiffres de tous les records, 53,4 milliards de dollars de bénéfices nets sur l'année, un chiffre d'affaires de 233,7 milliards. Voilà. On a tous vu,
c'est
colossal, c'est colossal, c'est la première fois qu'on atteint de tels chiffres. Les derniers chiffres approchant ça, c'était ExxonMobil en 2008. Là, voilà, c'est colossal. Alors, ceux qui cherchent la petite bête, les analystes financiers aiment bien scruter tous ces chiffres, etc.
Mais c'est vrai qu'ils sanctionnent souvent Apple. Hein.
Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent Apple est devenu un colosse au pied d'argile qui est trop dépendant de son seul et unique produit phare qui est l'iPhone, qui représente effectivement 62% à peu près du chiffre d'affaires d'Apple. La Watch, on n'a pas trop de chiffres. Tim Cook nous a dit qu'il en avait vendu plein, etc. Bon, voilà. Mais on n'a pas
on
trop
en a
de chiffres.
On a vendu plein.
On est très contents. Voilà. Des iPads, il en a vendu vachement moins. Donc, mais ça, par contre, effectivement, on a les chiffres. Hein, ça stagnait. Et puis là, on voit que ça commence à diminuer.
En dessous des 10 millions, hein, je crois.
Voilà, exactement. Et par contre, les Mac se maintiennent. Donc voilà, nos analystes financiers nous disent attention, Apple, etc. Trop dépendant d'un produit. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est aussi de regarder cet écosystème que nos amis d'Apple ont réussi à créer, parce qu'en fait, ils ont leurs propres produits. Mais en 2014, quasiment 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'Apple provenaient de l'App Store. Et sur ces 14 milliards, ils en ont récupéré, 15 milliards, ils en ont récupéré 5, mais ça veut dire qu'il y a 10 milliards d'un écosystème qui vit quand même majoritairement
oui, tous les
grâce,
développeurs d'appli.
Exactement, grâce oui. à Apple et grâce à ses téléphones. Donc on souhaite bon vent à Apple et à son smartphone.
Voilà. Et peut-être qu'un jour Tim Cook décidera enfin de communiquer sur les ventes de l'Apple Watch.
Oui, quand elles seront bonnes.
Quand elles seront bonnes. Antoine Cyr,
vous êtes prêt pour Halloween?
Regardez, on est déguisé rien que pour vous.
Non mais chez vous c'est Halloween, c'est un peu comme la potion magique avec Obélix quoi. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Ah oui, c'est dire que je suis tout le temps déguisé en Halloween.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Merci Antoine. Non mais vous savez,
la vengeance est un plat qui se mange froid.
Complètement. J'en garde une pour vous. Vous inquiétez pas.
Oh mais ça je vous connais.
Bon. Donc.
Bref.
Oui.
Donc Google en tout cas, mon cher François, donc vous qui aimez beaucoup Halloween, Google a pensé à vous. En créant une interface qui s'appelle FrightGuest et qui permet de connaître les costumes les plus recherchés autour de vous afin d'être unique et d'impressionner tout le monde, par exemple avec une tenue terrifiante exclusive. Donc vous pouvez avoir le classement des costumes les plus recherchés pour les gens qui se costument pour un soir hein, et afficher votre recherche de manière locale ou nationale, et il y a même une carte interactive qui vous permet, en survolant chaque ville avec sa souris, de savoir quel type de déguisement est le plus tendance en ce moment. Alors évidemment, l'idée de Google, c'est de montrer sa capacité d'agrégation de données, donc ça a une vocation essentiellement publicitaire. Et puis en plus, ce service n'est pour l'instant disponible qu'aux États-Unis. Donc, mon cher François, il faudra encore que vous fassiez confiance, à votre instinct
oui.
Pour déguiser sous un déguisement d'Halloween votre magnifique personne.
Très bien. Donc je peux ressortir mon déguisement de citrouille.
Exactement.
Ça marche toujours.
Exactement.
Hein ? Très bien. Bon, on enchaîne avec Aurore Giraud qui, elle, ne se déguise pas pour Halloween. Hein,
non, mais Aurore. Je reste sur le thème, par contre.
Ah, c'est très bien. Bravo.
Alors, je vais vous parler de science-fiction, de films d'horreur, on va dire. Et je vais vous parler de... est-ce que vous vous souvenez, quand vous regardiez des films d'extraterrestres, de ces petites soucoupes volantes qui attrapaient, qui capturaient les humains via un faisceau lumineux?
Ah oui, qui les aspiraient.
Qui les aspiraient.
Bien sûr.
Et ça a été inventé par un génie des effets spéciaux américain qui s'appelait Ray Harryhausen et qui a commencé, il ne faut pas oublier que les premières soucoupes volantes s'appelaient des soucoupes volantes parce qu'elles ont été faites avec des soucoupes.
Des vraies soucoupes. Des vraies
soucoupes.
Mais des vraies soupes.
Ben oui.
Ben oui. D'accord.
C'était des assiettes. Oui, oui, bien sûr.
Ah là là, Antoine, franchement, vous devriez écrire un bouquin sur les films.
Oui.
Non, mais franchement, hein, je ne sais pas, moi, si j'ai un conseil à vous donner.
Oui, 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 on devrait essayer.
Ouais.
Donc, ces soucoupes volantes, ce faisceau lumineux vient d'être créé. Ce faisceau lumineux qui permet de capturer quelqu'un et de le... Enfin, pas de capturer quelqu'un actuellement, c'est pas encore le cas.
Ça marche pas encore.
Pour l'instant, c'est que des perles vraiment en plastique. Mais ils ont réussi à développer donc ce faisceau lumineux qui attire vers soi.
D'accord.
Et alors, c'est à base de d'ondes, en fait, sonores, qui est de 64 quand même enceintes diffusées vers un seul endroit. Et ils ont réussi, grâce à ça, à créer même un hologramme de main qui attrape les petites billes en plastique. Donc pas encore pour l'humain, mais l'idée c'est vraiment de les utiliser pour la médecine ou pour des environnements disons chimiques ou pour éviter de toucher les choses vraiment.
D'accord. Et peut-être que les extraterrestres, s'ils nous écoutent là, ils vont se dire, mais attendez, c'est un truc génial, on va pouvoir comme ça enlever les humains.
Ou alors ils vont dire qu'ils étaient les premiers. Mais...
Et voilà, c'est ça.
Ils vont faire un procès.
Ils vont nous faire un procès.
En copyright.
Exactement. Voilà. Allez, direction l'atelier US maintenant avec vous, Guillaume Renoir.
Oui, alors moi par contre, je vais radicalement changer de sujet puisque je vais vous parler camions et transport de marchandises. Alors, donc, bon, c'est pas le sujet le plus sexy du monde, mais faut savoir que le transport routier, c'est un domaine d'envergure. Déjà, puisqu'en Amérique, cette industrie a dépassé les 600 milliards de dollars en 2011. Et c'est aussi une industrie qui a jusqu'ici été assez imperméable à l'innovation, puisqu'il n'y a pas eu vraiment d'innovation de rupture avec les nouvelles technologies. Mais ça va peut-être changer avec la start-up Convoy, C-O-N-V-O-Y, qui veut devenir en quelque sorte le Uber du transport routier. Alors pour ça, elle propose une application donc qui met en relation les personnes souhaitant envoyer un colis ou une marchandise avec les chauffeurs disponibles. Donc si moi, par exemple, je souhaite faire livrer une marchandise, je poste une annonce sur l'application avec en mettant le prix que je souhaiterais payer au maximum. Et ensuite, du coup, un chauffeur peut accepter la course si le prix lui convient. En sachant qu'ensuite, de mon côté, il est possible de suivre la progression grâce à la géolocalisation. Et ensuite, selon la recette éprouvée déjà par Uber et Lyft, chaque partie note l'autre à l'issue de la transaction, donc sur une échelle de 1 à 5. Alors, une dernière chose, il faut savoir que Convoy n'est pas la première entreprise à se lancer sur le secteur. Il y a eu déjà Cargomatic il y a quelques mois. Mais Convoy espère se différencier en ciblant notamment les trajets effectués sur de courtes distances qui représentent une large part du transport routier.
Voilà, et on peut même imaginer qu'Uber un jour sorte ce genre de service parce qu'on voit que Uber se diversifie hein, maintenant à Paris. Uber livre même des repas. Alors je sais pas si l'un d'entre vous ici dans ce studio l'avait testé, mais voilà, ça y est, Uber Eats a été lancé. Alors que dans un quartier parisien, on peut imaginer que bientôt ça va se généraliser. Merci beaucoup Guillaume Renoir. Et tout de suite direction après l'atelier US, l'Asie avec la vue d'Asie justement de Jean de Chambure. Bonjour Jean.
Bonjour François.
Jean de Chambure, donc, à Shanghai. Et alors, cette semaine, on va parler de Mark Zuckerberg qui était à Pékin. Et on va aussi évoquer les géants du net chinois, c'est ça, Jean ?
Exactement, François. Alors là, ce sont les géants de la Silicon Valley qui se déplacent en Chine, puisqu'effectivement, la semaine dernière, Mark Zuckerberg est venu à l'université de Tsinghua. Alors, Tsinghua, c'est l'équivalent un peu de Stanford ou du MIT. Hein. C'est une des plus prestigieuses universités de Chine, en tout cas la plus prestigieuse université de Pékin.
D'accord.
En matière de sciences et de technologies, sont absolument brillants. Et donc voilà, il a parlé devant une assistance tout à fait médisée, déjà par le fait qu'il parle en chinois. Vous savez que la compagne de Mark Zuckerberg est chinoise, ça aide peut-être un petit peu.
Ah, et lui, parle chinois, il parle chinois couramment ?
En tout cas, à l'oral.
Ah oui.
Il y a un niveau de chinois qui est très impressionnant. Je suis incapable de vous dire.
D'accord.
Si, pour ce qui est des idées, c'est le cas aussi. Mais en tout cas, l'oral, oui, il a vraiment parlé en chinois. Ça a, du coup, médusé un peu et très certainement
flatté.
Favorablement, comment dire,
flatté.
Impacté cette assistance très très chinoise. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Il a dit, ben voilà. Moi, j'ai fait Facebook, c'est parce que je voulais connecter les gens, ça fait le storytelling à l'américaine. Il a beaucoup insisté donc sur cette notion de sens pour créer des boîtes qui marchent bien. Et c'est quelque part très en résonance avec la Chine actuelle, avec toutes ces startups qui se créent et cet écosystème qui est porté vraiment par les grands géants de l'Internet. D'où ma transition avec le second sujet, parce que les géants de l'Internet en Chine, vous le savez, c'est pas les GAFA, c'est les BAT.
Oui.
Donc c'est Baidu, c'est Alibaba, c'est Tencent, et qui régulièrement vont acheter des startups qui montent. Il n'y a pas toute cette galaxie de licornes qu'on voit émerger aux États-Unis. Disons qu'il y a quelques startups pépites qui pointent leur nez, mais assez vite, en fait, elles se retrouvent rachetées et intégrées dans un écosystème qui appartient à ces grands géants de l'Internet, donc les BAT. Pour vous donner deux exemples, le premier, c'est la plateforme de vidéo Youku. Youku, Todou, pardonnez-moi mon accent François, alors Todou ça veut dire pomme de terre, Youku vous avez compris c'est un peu l'équivalent de YouTube, eh bien ils ont été rachetés par Alibaba, donc Alibaba compte très certainement arriver de plus en plus dans l'entertainment en plus du e-commerce, voilà c'est une actualité très forte. Et l'autre rachat important, donc ça c'est par Baidu, donc un peu l'équivalent moteur de recherche de Google, qui a racheté Bolomi. Un peu comme Follow Me, Bolo Me. Alors qu'est-ce que Bolo Me ? C'est un très joli concept. En fait, c'est vraiment l'intégration de la vidéo proximité pour un peu à la manière d'un mini-reportage où vous êtes sur un marché, imaginez vous êtes sur un marché, vous pouvez vendre un peu vos produits très très rapidement avec des petites vidéos. Là, ça concerne en fait des produits qui sont dans les pays limitrophes de Chine, donc en Corée, au Japon. Et donc, par exemple, vous voulez vendre des pignons, vous voulez vendre des pignons en Corée du Sud et vous les vendre en Chine, et bien vous avez droit à une petite vidéo et un peu à la manière de Jean-Pierre Coff, vous allez pouvoir vendre vos pignons, expliquer à quel point c'est super, donner des éléments aussi un peu rationnels sur ces produits, et c'est comme ça que ça marche très très bien. Donc c'est une belle pépite. Et elle a été rachetée, enfin en tout cas elle est directement investie au second tour à hauteur de 30 millions de dollars par Baidu. Voilà. Donc deux belles pépites rachetées ou investies par des acteurs clés de l'Internet.
Parfait, merci beaucoup Jean de Chambure. Voilà, c'était notre vue d'Asie, vous le savez. Jean à Shanghai, chaque samedi dans l'atelier numérique sur BFM Business. Merci Jean. Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Silicon Carnet à suivre avec Romain et puis la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà l'atelier numérique sur BFM Business. Je sais que vous les attendez, les cyber gadgets d'Antoine. Mais que diable va-t-il nous démontrer et nous présenter dans un instant? Eh bien, vous verrez ça dans quelques minutes. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet. Et le Silicon Carnet, cette semaine, c'est avec Romain Chaperon depuis l'atelier US. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors Romain, on va parler de Facebook. Quel est l'avenir de Facebook? C'est la question qu'on va vous poser, Romain.
Oui, François. Et est-ce qu'on peut encore définir Facebook uniquement par le terme réseau social? La question, elle mérite d'être posée puisque depuis plusieurs mois maintenant, les initiatives annoncées par le géant californien s'éloignent de plus en plus de la promesse de base qui était, vous le savez, de nous mettre en relation avec nos proches, amis ou familles. Je vous propose donc qu'on décrypte ensemble le futur de Facebook.
Alors justement, Romain, quelles sont ces nouvelles initiatives du côté de Facebook?
Bah, premièrement, la société de Mark Zuckerberg n'en finit plus de lancer des innovations en direction de l'industrie des médias. La semaine dernière, Facebook a officiellement sorti Instant Article. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet aux utilisateurs de consommer des articles directement depuis l'application. Plus besoin donc d'attendre que le site web de l'éditeur se charge pour lire votre article. Alors Facebook a déjà annoncé plus de 50 partenariats avec des médias américains comme USA Today, Mashable ou Time. Et cette semaine, et toujours sur ce sujet des contenus médias, Facebook va un cran plus loin et il a annoncé s'apprêter à refondre totalement les notifications. Vous savez, cette fonctionnalité qui vous alerte quand vos amis interagissent avec vous, quand on vous cite dans un message, quand on poste une photo de vous. Et bien prochainement, via les notifications, vous allez avoir accès à des contenus d'informations locales. La météo, les séances de cinéma autour de vous, les résultats sportifs, les restaurants à proximité de vous. L'enjeu est fort, mais le risque l'est tout autant. Jusqu'à présent, ces notifications donnaient à ses utilisateurs une information très importante, basée sur les interactions avec leur entourage. Ajouter des contenus externes risque de diminuer son intérêt. À tester donc.
Et pourtant, Facebook continue à s'intéresser de près aux communications que les utilisateurs font entre eux. C'est toujours important, ça.
Oui, François, vous avez tout à fait raison. Cet usage est encore stratégique pour Facebook. En revanche, il se détache de plus en plus de l'application mère pour se concentrer vers ses applications de messaging. La firme de Menlo Park déploie des moyens considérables autour de ces deux applications, WhatsApp et Messenger. Nathalie vous en parlait il y a quelques semaines, les résultats sont assez impressionnants. WhatsApp, c'est plus de 900 millions d'utilisateurs, Messenger dépasse allègrement les 700 millions. Ces deux applications-là sont dans le top 10 des apps les plus téléchargées. Et donc, le temps est venu pour Facebook de monétiser cette audience. Et les deux piliers de cette monétisation sont assez clairs. Ce sera le paiement, l'envoi d'argent entre pairs et le social commerce. L'achat de produits directement depuis l'application va en effet se généraliser. Instagram, vous savez, qui a été racheté par Facebook il y a quelques temps déjà, sera aussi une plateforme clé dans la stratégie e-commerce de Facebook. Les marques e-commerce de proximité vont également pouvoir rentrer en discussion avec les utilisateurs. C'est clair que la guerre du shopping social a bel et bien commencé. Il y a aussi Twitter et Pinterest qui sont en train de lancer massivement leurs solutions sur ce sujet.
Alors après les médias, la fintech, l'e-commerce, Facebook a d'autres grands projets, Romain ?
Oui, bien sûr. À manière de Google qui multiplie ses projets un peu fous autour de Google X, vous savez, qui est dirigé par le fameux Astro Taylor, eh bien Facebook développe lui aussi des side projects. Alors il y a bien sûr la réalité virtuelle depuis le rachat d'Oculus. Il y a aussi l'intelligence artificielle. Mais le projet qui tient le plus à cœur de Mark Zuckerberg, c'est sans aucun doute Internet.org. On le connaît tous, ce fameux projet qui a pour ambition de connecter les deux tiers de la planète, qui n'est actuellement pas connectée à Internet, justement. Alors, on peut débattre du caractère philanthropique ou purement mercantile de ce projet. En tout cas, c'est suivi de très très près par Facebook. À tel point que cette semaine, l'entreprise a fait une annonce qui est un peu surpris ici, dans la vallée. Désormais, tous les mardis, les employés de Facebook verront la vitesse de leur accès Internet réduite. Et l'objectif, c'est qu'ils comprennent comment les utilisateurs qui sont dans des régions avec une faible connexion Internet, justement comment ces utilisateurs accèdent à leur site web préféré. On le voit donc, même si l'ADN de Facebook reste la mise en relation, la diversification va bon train. Discuter avec ses amis, faire son shopping, s'informer, préparer ses soirées cinéma au restaurant. Et ça, dans le monde entier et dans les pays émergents, le Facebook du futur s'apprête à être omniprésent.
Et Facebook qui devient un vrai web dans le web, finalement. Merci Romain Chaperon pour ce Silicon Carnet. Place maintenant donc à la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Antoine, qu'est-ce que vous avez sélectionné pour nous comme gadget cette semaine?
D'abord, on va parler de l'arbre connecté.
Ah, bien sûr.
Bah oui.
Forcément.
Ils n'avaient pas pensé.
Non.
La nature n'avait pas pensé
à ça.
À connecter les arbres. Et donc, voilà. Donc, alors, l'arbre connecté s'appelle E-Tree.
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 Bon.
Enfin,
bon.
Vous voyez, j'essaye de le dire avec mon accent, mais vous voyez à peu près ce que c'est, hein. C'est E, et puis plus loin, T-R-E-E.
D'accord.
C'est l'E-Tree. Donc c'est l'arbre connecté. Alors qu'est-ce qui le distingue d'un arbre classique ? Bah c'est qu'il est connecté. Bon, comme l'arbre classique, il peut servir de mobilier urbain. En l'occurrence, c'est dans cet emploi qu'on va utiliser l'arbre connecté, parce que si vous mettez un arbre connecté en plein désert, ça n'a pas grand intérêt. Alors donc c'est en fait un mobilier urbain, mais qui fonctionne grâce
à pas un vrai arbre.
Non, c'est un mobilier urbain qui fonctionne grâce à un feuillage photovoltaïque. Donc en fait, c'est ça son point commun. Alors là, on fait tous les deux le geste de feuilles qui tremblent.
Voilà, c'est
mais
ça.
Donc on le dit quand même pour nos auditeurs.
Un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave.
Oui, mais bon, voilà. Et donc grâce à son feuillage photovoltaïque, l'E-Tree produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Il est même, en récupérant l'air qu'il condense, il est capable de créer 13 à 14 litres d'eau par jour. Et ça d'ailleurs, même si pour le coup il est installé en plein désert. Alors, il fournit 7 kilowatts par jour, de quoi recharger les appareils mobiles. Il offre aussi l'accès au Wi-Fi. Et puis le soir venu, il restitue aussi une partie de l'énergie qu'il a accumulée en lumière pour éclairer ses alentours.
C'est génial, ça.
Voilà, il est capable de supporter jusqu'à 70 cm de neige, 170 km/h de vent, et donc sa durée de vie n'est pas celle des arbres centenaires, mais elle pourrait apparemment atteindre 40 ou 50 ans.
Est-ce que les oiseaux se poseraient dessus ?
Ah ben ça c'est possible, j'espère qu'ils vont pas être électrocutés.
Ah là là, mon Dieu, quelle horreur. Bon, deuxième gadget, Antoine.
Alors là, c'est pour les gens. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, dans les transports en commun, de me faire voler mon téléphone.
Oui, c'est vrai.
Oui, et j'avais d'ailleurs... C'est une situation un peu difficile, parce que j'étais presque certain de savoir qui me l'avait volé, mais c'est extrêmement difficile d'avancer devant une personne en disant « Je pense que vous avez profité de ma somnolence pour me voler mon téléphone. » Et c'est un peu délicat de le faire, et j'avoue que je l'ai pas fait, mais donc réfléchissez bien dans les transports en commun quand vous vous apprêtez à somnoler.
Ça peut être dangereux.
Ça peut être dangereux.
Ouais. Bon.
Bon. Alors donc il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, même en écoutant de la musique, hein, d'un seul coup vous écoutez de la musique, vous avez les yeux fermés, puis d'un seul coup il y a plus rien.
Et oui.
Il y a plus de téléphone.
Il y a plus de musique non plus.
Voilà. Alors à défaut de prévenir les vols, il y a une solution qui s'appelle LockPlug et qui permet d'assurer la sécurité de vos données. C'est-à-dire que dès que les écouteurs, alors ça suppose que vous étiez en train d'écouter
quelque chose.
Mais dès que
le podcast de l'atelier.
Par exemple. Et donc dès que vous n'entendez plus la voix mélodieuse de Lila Megrawa ou d'Aurore Géraud, c'est que.
Mais Constance, non, elle a pas une voix gracieuse.
Mais bien sûr que si, ou de Constance.
Oui, d'accord.
Pardonnez-moi, c'était un exemple.
Voilà,
vous avez remarqué que la seule personne que je n'ai pas citée, c'est vous.
Oui, mais ça me dérange pas.
Mais non, mais vous avez tellement une voix de radio, mon cher François.
Oh.
Alors, dès que les écouteurs sont débranchés de votre téléphone, eh bien, ils se verrouillent automatiquement et la totalité de vos données, par ailleurs, est sauvegardée, que ce soit les messages, les applications, l'intégralité des photos, etc. Il est impossible de débloquer le téléphone autrement que par un code que vous avez choisi, vous.
D'accord. Ce qui est un peu le cas aussi... Aujourd'hui, avec les iPhones, les Galaxy, etc., vous avez des codes pour bloquer votre téléphone. J'espère qu'il était bloqué d'ailleurs, mon cher Antoine, hein, votre téléphone.
Non, mais là, je pense que c'est un téléphone plus, c'est un code probablement plus compliqué à casser. Oui, parce que je crois que le code de l'iPhone ou de l'Android, vous allez dans plein de magasins.
Et on peut le faire.
Ouais.
D'accord. Ah oui. C'est sûr.
Oui,
voilà pour la sélection de gadgets d'Antoine. Et vous restez avec nous. La suite de l'atelier dans un instant. Focus Startup. Et puis notre enquête de l'atelier. On va parler des DRH. Tiens, toujours Pierre Angulard de la transformation digitale. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, notre enquête de l'atelier sur BFM Business. Dans cet atelier, on va évoquer la DRH et la transformation digitale. Mais auparavant, notre focus start-up. On va s'intéresser à la start-up Awaken qui met la sécurité au cœur de la voiture connectée. Et c'est avec vous, Lila.
Oui, François. Alors, cette semaine, on reste encore dans l'automobile. On poursuit notre saga. Cette semaine, on va s'intéresser à la start-up Awaken. Pour en parler, j'ai à mes côtés Jérôme Scalia. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Jérôme, vous êtes cofondateur et président de la start-up Awaken. Alors, expliquez-nous un peu en quoi consiste Awaken.
Alors, Awaken, c'est une société spécialisée dans les objets connectés, pardon. Donc, on a créé cette start-up parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer à travers la connectivité des objets. Et notre premier produit, Awaken Car, est un projet qui a pour vocation de sauver des vies.
À savoir.
Donc en fait, c'est un boîtier électronique qui se branche sur le port diagnostic des véhicules. Et ce boîtier électronique, il est en mesure de détecter les accidents, les chocs très violents, et de transmettre cette notification au service des urgences. Donc les urgences pourront savoir en temps réel, instantanément et de manière totalement automatique, le lieu de l'accident avec la position GPS. Et aussi les informations de contexte, c'est-à-dire à quelle allure a eu lieu l'accident et quelle intensité. Et en fonction de tous ces paramètres-là, ils vont pouvoir savoir quelle unité ils vont déplacer sur le lieu de l'accident.
Comment ça fonctionne exactement ? C'est un boîtier, il est bardé de capteurs
Alors c'est dans le boîtier, on retrouve un GPS, donc qui va se charger de donner en temps réel la position du véhicule, donc très précise. Il est aussi doté d'un accéléromètre qui lui va se charger en fait de mesurer l'intensité du choc en G. Et en fonction du palier et du seuil d'intensité, on a décidé d'envoyer la notification ou non aux urgences pour pas les polluer avec les petits chocs. Et il est aussi muni d'une carte SIM intégrée. Donc cette carte SIM intégrée va se charger du coup de transmettre les informations au service des urgences de manière automatique, donc sans l'aide d'un smartphone ou quoi que ce soit. Donc il est totalement autonome et il fonctionne en Europe, aux États-Unis et en Asie.
Quel est le modèle de ce produit Awaken Car ? Quel est le business model ?
Donc en fait, c'est un boîtier qu'on commercialise à 99 euros et avec un abonnement mensuel de 5 euros qui permet en fait de recouvrir les frais en fait de transmission de données sur tous les continents. Donc c'est un produit qui a donc cette vocation là de sauver des vies, mais on a remarqué que cette même technologie pourrait répondre à d'autres besoins. Donc on a utilisé cette même technologie pour la prévention contre le vol, c'est-à-dire qu'on va notifier l'utilisateur, le propriétaire en fait du véhicule, pardon, en temps réel lorsque son véhicule est en mouvement alors que lui-même ne s'y trouve pas, et on va lui permettre de géolocaliser en temps réel du coup son véhicule en mouvement, et c'est à lui de décider s'il contacte les services de police ou non. Et on a aussi développé une troisième fonctionnalité à travers cette même technologie, c'est l'autodiagnostic du véhicule. Donc en fait, on va lire les erreurs que renvoie le moteur lorsqu'une panne du véhicule intervient. Et on va identifier l'erreur et transmettre une courte description à l'utilisateur et lui proposer des solutions en fonction de la gravité du problème. C'est-à-dire si c'est un problème léger, on va lui proposer une liste de tutoriels pour lui montrer comment changer la pièce lui-même et une liste de liens commerciaux pour commander les pièces de rechange directement sur Internet. À travers nos partenariats, on espère proposer des tarifs préférentiels pour nos utilisateurs. Si par contre c'est un problème plus important, donc qui nécessite l'intervention d'un professionnel, on va proposer la liste des garagistes aux alentours avec la possibilité de prendre une réservation toujours directement à travers l'application et de bénéficier de tarifs préférentiels grâce à nos partenaires.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce service, ce petit boîtier, soit directement intégré et proposé par les constructeurs automobiles ?
Donc en fait, notre but, vu que notre but premier, c'est de sauver des vies, on l'a développé pour être compatible avec le plus de véhicules possible dans le monde. C'est-à-dire qu'on l'a développé pour qu'il soit compatible non seulement avec les futurs véhicules, mais aussi avec tous les véhicules qui ont déjà été produits, les 2 milliards de véhicules déjà en circulation. Et on est parfaitement conscient que les constructeurs maintenant planchent sur la voiture connectée. Et du coup, on se rapproche d'eux pour proposer l'équivalent de nos applications sur leur store, en fait. Donc, dans le futur, on peut espérer que dans tous les véhicules du marché, on va pouvoir télécharger nos applications qui permettront plus ou moins le même service.
Quelles sont les prochaines étapes pour Awaken ?
Donc, dans le futur, on aimerait, pour Awaken Car, on aimerait être intégré dans les prochains véhicules qui sortiront, donc les nouveaux, qui seront des véhicules connectés. Donc, on aimerait avoir l'équivalent de nos fonctionnalités actuelles, mais dans tous ces nouveaux véhicules. Et on s'intéresse aussi beaucoup au domaine de la santé et de la domotique. Donc en fait, on est déjà en train de travailler sur des solutions qui pourraient nous permettre de encore une fois de sauver des vies, mais cette fois-ci vraiment dans les objets connectés santé et pas forcément à l'intérieur du véhicule. Donc on a pour ambition d'être un acteur majeur en fait dans les objets connectés.
Jérôme Scalia, merci. Je rappelle, vous êtes cofondateur et président de la start-up Awaken. Merci.
Et après la voiture connectée, Lila, autre sujet, parce que décidément, vous êtes sur tous les fronts. Lila, c'est terrible. Après la voiture connectée, on va parler de DRH, qui est toujours la pierre angulaire de la transformation digitale. C'est la question qu'on va poser à notre invité.
Bah, tout à fait, parce que entre la question de la marque employeur, les réseaux sociaux, le recrutement via le big data, on peut dire que les métiers DRH ont littéralement été pris d'assaut et mis en question surtout par le digital. Pour en parler, on a le plaisir d'avoir Philippe Burger. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors Philippe, vous êtes associé responsable capital humain chez Deloitte. Alors, avec ce foisonnement, cette pléthore d'outils mis à disposition du DRH aujourd'hui, en bon docteur des métiers RH, quel est le diagnostic que vous pourriez faire du DRH d'aujourd'hui ? À quoi il ressemble et qu'est-ce qui a changé pour lui ?
Alors, presque tout, presque tout, c'est ce qui rendra les choses un petit peu difficiles dans le diagnostic. On dirait que le patient est en, non pas en rémission, mais en évolution assez importante. Ce qui a changé, c'est déjà son propre mode de fonctionnement, sa propre organisation, les outils, les supports qu'il va utiliser, mais également la façon dont il rend service au reste de l'organisation, aux responsables opérationnels, aux responsables d'activité, mais également dans tout le développement de l'entreprise. Et effectivement, le numérique est un des grands chantiers sur lesquels les DRH sont en train de travailler.
Alors, quels seraient ces plus gros défis à ce DRH face au digital ?
Alors, son premier défi, c'est sans doute d'avoir des outils, des systèmes qui soient suffisamment à niveau et suffisamment connectés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez le DRH moyen a sans doute entre 10 et 15 systèmes d'information différents, entre l'évaluation de la performance, entre le recrutement, entre le développement, entre les revues salariales et j'en passe. Et je mets dans ces systèmes d'information Excel, parce que beaucoup d'entreprises ont encore effectivement à travailler sur leurs outils. Et chacun de ces systèmes fonctionne en silo, comment je leur donne une cohérence, comment je les fais fonctionner ensemble.
Alors, on le disait, il existe une pléthore d'outils, mais dans les faits, concrètement, est-ce que notre ami DRH, il n'est pas un peu ralenti par son camarade DSI dans la mise en place de ces outils ultra innovants, ultra efficaces ?
Alors, ne mettez pas l'initiative d'une guerre DSI-DRH, sinon on va avoir des problèmes avec nos clients. Non, je pense qu'il n'est pas ralenti par le DSI, il est ralenti par le système d'information. Je pense que le DSI serait le premier à être partant pour faire évoluer et améliorer les systèmes. La question, c'est que mettre en œuvre, comment est-ce que je peux avoir un outil qui me permette à moi, en tant que manager, par exemple, de répondre aux questions clés que je vais avoir, qui vont être, quand je vois un collaborateur, quel est son parcours de carrière, quel est son historique, quels ont été ses niveaux de rémunération, comment il peut se développer dans l'entreprise, quelles compétences il faudrait que je développe avec lui, quelles sont ses ambitions, etc. Tout ça dans un seul système, le rêve du DRH.
Alors on l'a dit, le DRH est impacté, mais le salarié et collaborateur aussi. Comment ça se passe pour le collaborateur de votre point de vue ? Est-ce qu'il n'est pas un peu submergé par par ces outils mis à disposition?
C'est une des priorités, des premières priorités qui ont été identifiées dans toutes les études qu'on a pu mener auprès des DRH. Effectivement, le sujet du salarié sursollicité est aujourd'hui un élément de préoccupation de l'ensemble des directions générales des entreprises. Vous avez un collaborateur moyen qui, dans une entreprise, vérifie son smartphone 150 fois par jour. Je suis surpris que vous ne l'avez pas vérifié depuis qu'on se parle, mais ça ne saurait tarder.
Pas en studio.
Non, en studio.
Pour Lila. Bon. Mais après, je vous dis que oui.
Une
ça,
bonne
c'est
élève.
Vrai.
Voilà. On a une capacité à être connecté aujourd'hui à l'entreprise presque 24 heures sur 24. Pour peu que vous travaillez un peu avec les US, un peu avec l'Asie, vous vous retrouvez potentiellement connecté toute la journée. Et c'est une difficulté aujourd'hui parce que tous ces systèmes, ces outils ont amélioré la productivité et l'efficacité des organisations jusqu'à récemment. Et aujourd'hui, elles commencent à détruire de la valeur. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour être au top d'un sujet, il faut à peu près 20 minutes. C'est-à-dire 20 minutes de concentration sur un sujet. Oui, dur, sachant qu'on est interrompu à peu près toutes les 3 minutes aujourd'hui. Donc vous voyez un peu l'effet. Donc c'est une préoccupation des DRH, des dirigeants d'entreprise. Comment je vais rendre ces systèmes plus efficaces? Comment je vais moins solliciter? Bruno Mettling, le DRH d'Orange, avait parlé d'une autorisation, enfin d'un.
A remis un rapport à la ministre du travail.
Voilà, en parlant de droit à la déconnexion, mais également de devoir à la déconnexion.
Comment le DRH actuellement répond à ces problèmes de connexion intempestive, d'hyper connectivité? Comment on pourrait y répondre?
Alors on y répond de plusieurs manières. Certaines entreprises ont innové en mettant en place par exemple une coupure des mails au-delà de 19h par exemple, ou au-delà de 21h ou 22h, donc le soir. On y répond aussi en mettant en avant l'intérêt d'être déconnecté sur certaines thématiques. Bon voilà, vous avez des choses très classiques sur les pop-up et autres qu'il faut couper, mais également sur le développement des managers, des leaders, l'exemplarité qu'on peut avoir dans ces modes de fonctionnement.
On l'avait évoqué un peu au début, le sujet du big data. On a certaines personnes qui pointent que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les chercheurs d'emploi parce que ça va empêcher toute discrimination à l'emploi. Est-ce que vous partagez cette vision-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de lissage de profils?
Vous avez tout à fait raison. C'est le gros risque, effectivement, sur le big data. On essaye d'identifier des types de profils qui fonctionnent bien dans l'entreprise, qui vont bien se développer, et on a le risque de générer finalement des clones, les mêmes profils qui vont avoir le même succès. Or, on sait que les entreprises sont plus performantes, plus innovantes, quand elles ont des profils mixtes, divers. C'est là où on apporte le plus de valeur, là où on est le plus innovant. Donc, c'est un des dangers. C'est pour ça que c'est un outil qui est intéressant d'utiliser, mais c'est pas le seul. Il faut effectivement trouver d'autres sources.
Oui, on peut pas tout automatiser quand même.
Tout à fait, et c'est dangereux.
Mmh. Bon, on a également Altaïde qu'on avait reçu plusieurs fois sur le sujet du recrutement 2.0. Est-ce que à propos des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui réellement un terrain vivace de talent? Est-ce que c'est pas un peu gadget?
Alors, je pense que c'est un terrain vivace de talent, notamment sur des procédures de cooptation. Alors, vous avez des entreprises qui sont très créées sur le sujet. Hein. Vous avez un MyJob Company, par exemple, qui va fonctionner comme ça, en communauté, en cooptation à l'intérieur d'un réseau d'experts sur tel ou tel sujet. Ça permet finalement de rendre des recrutements sans doute plus efficaces, parce qu'on y pense à deux fois avant de recommander un collaborateur. C'est pour ça que les entreprises, depuis déjà de nombreuses années, rémunère un collaborateur qui en coopte un autre, parce qu'ils savent que quelque part cette personne va analyser non seulement les compétences techniques mais également les compétences comportementales, sa capacité à rentrer aussi dans la culture de l'entreprise.
À quoi, si vous deviez dessiner un peu le portrait robot du DRH de demain, à quoi il ressemblerait, Philippe Burger?
Alors, le DRH de demain, et on commence à avoir émergé ces nouveaux profils, je pense que déjà, sa première caractéristique, c'est quelqu'un qui comprend bien l'entreprise, son activité, son business, sa stratégie, qui est capable d'en parler aussi bien qu'un patron opérationnel. Ça veut dire aussi qu'éventuellement, il est passé par ça à un moment, par une fonction opérationnelle. C'est aussi quelqu'un qui a, aujourd'hui, qui va gérer des pluralités d'équipes, telles que il doit être une sorte de chef d'orchestre. Il doit appréhender l'entreprise de manière très perméable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle est plus arrêtée à des murs physiques ou des murs numériques. On a une perméabilité complète de l'information. Vous avez aujourd'hui accès en dehors et à l'intérieur de l'entreprise à énormément d'informations. Donc ce DRH, il doit savoir appréhender, prendre quelque part une partie du rôle peut-être du directeur marketing. Vous voyez, là, je vais engendrer une autre guerre.
Après les DSI, directeurs marketing.
Mais effectivement, il doit rentrer sur ce terrain. C'est tout le sujet de la marque employeur, sa capacité à imprimer sa marque aussi pour recruter des talents, pour les mobiliser, les engager et leur donner du sens, qui est une des priorités aujourd'hui des collaborateurs. Quel sens je peux donner à mon travail et à mon entreprise?
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
C'était un plaisir. Merci à vous.
Voilà, le portrait du DRH de demain sur BFM Business dans cet atelier. Merci beaucoup, on revient dans un instant. Lila, on va poursuivre cet atelier numérique avec notre web stratégie. On va parler de bâtiments intelligents dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, on s'intéressera à l'art et l'histoire dans le jeu vidéo à l'occasion de la Paris Games Week qui se déroule actuellement donc à Paris, porte de Versailles. Mais auparavant, notre web stratégie, on va parler d'un tout autre sujet mais passionnant. On va évoquer le bâtiment intelligent et c'est avec notre invité Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, pour cette web stratégie, on va s'intéresser aux bâtiments intelligents et tout particulièrement à la vision du bâtiment intelligent par Vinci Facilities. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Ernest. Bonjour.
Bonjour.
Alors David Ernest, vous êtes directeur innovation et énergie chez Vinci Facilities. Alors dites-nous un peu quelle est la définition dans les grandes lignes du bâtiment intelligent selon Vinci Facilities.
Alors avant d'arriver à la définition, nous notre enjeu c'est de pouvoir prolonger l'environnement technologique des salariés sur leur environnement de travail. Et pour ce faire, Vinci Facilities donc va développer des solutions avec ses clients. Donc le bâtiment intelligent, c'est un bâtiment qui va rendre de nouveaux services connectés aux salariés, donc aux salariés de notre client, à l'occupant du bâtiment, en utilisant de la technologie. Mais il faut bien noter que l'objectif, c'est de produire des services innovants et de plus en plus ciblés sur l'utilisateur final.
Quel type de service propose Vinci Facilities? Un service numérique ou connecté?
Alors aujourd'hui, déjà pour expliquer ce que fait Vinci Facilities, donc Vinci Facilities gère maintient et entretient des bâtiments, produit un certain nombre de services à destination des salariés, donc ce qu'on appelle, qu'on peut appeler habituellement services généraux, qu'on appelle nous Facilities Management. Donc ce sont des services à la personne, de la propreté, le courrier, le management des salles de réunion, le confort. Donc ça, c'est les services de base qu'on a aujourd'hui. Avec le numérique, on va pouvoir beaucoup mieux cibler ces services sur les besoins de l'utilisateur et par exemple déclencher la climatisation en fonction de la présence effective d'une personne, mieux suivre le taux d'occupation des salles de réunion, toutes sortes de services, ou même proposer de la géolocalisation sur des grands sites.
Ça on est capable de le faire à partir de quel type? À partir de capteurs
Alors, ce qui est important de noter dans un bâtiment intelligent, c'est qu'on va avoir besoin de technologie, ça c'est sûr. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est de la technologie, c'est des capteurs, c'est des infrastructures intégrés au bâtiment qui permettent de mieux gérer ce bâtiment et les services associés. Mais c'est derrière de pouvoir utiliser ces capteurs et les données qui sont produites par ces capteurs pour personnaliser les services et les ajuster aux besoins du salarié.
Et qu'est-ce qui va en ressortir ? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, à partir des données captées, je vais être en mesure de dire voilà, telle salle de réunion n'est pas occupée entre 8h et midi selon les usages courants. On n'a pas besoin de chauffer cette salle. Est-ce que ça peut être ça ?
Alors ça, je dirais même, c'est l'essentiel, c'est le point de base. Mais derrière, par exemple, vous parlez des salles de réunion. Je vais prendre un exemple autour de ces salles de réunion et ce qu'on peut faire dans un bâtiment connecté. Aujourd'hui, les salles de réunion, dans les bâtiments récents, sont déjà, on va dire, intelligentes. On a des capteurs de qualité d'air dans ces salles de réunion qui permettent de déclencher le renouvellement d'air pour assurer le confort des occupants. Mais là, l'idée, c'est d'aller plus loin. C'est par exemple d'utiliser ce capteur de qualité d'air de la salle de réunion pour finalement tracer l'usage de la salle, savoir si elle a été effectivement utilisée pendant la journée. Et par exemple, si elle n'a pas été utilisée pendant la journée, il n'est pas nécessaire de la nettoyer, puisqu'elle n'aura pas été utilisée. Et sur le plus long terme, ça permet de mieux évaluer comment sont utilisés les mètres carrés de notre client pour proposer éventuellement un réaménagement de ces salles, une optimisation de ces mètres carrés. Donc vous voyez, le bâtiment intelligent, ça va être des capteurs de la technologie, l'analyse des données qui sont fournies par ces capteurs, et derrière, l'ajustement, la personnalisation des services, l'optimisation des services pour les occupants du bâtiment.
Est-ce que quelque part votre cœur de métier au contact du numérique avec ce bâtiment connecté, quel type de métier ont émergé ? Est-ce que ça a pas changé, ça a pas poussé certains métiers à évoluer ?
Très certainement, notre métier va évoluer au contact du numérique. Déjà, il y a un volet technologique, c'est-à-dire qu'on maîtrise déjà la technologie dans le bâtiment. On a aujourd'hui des systèmes qui s'appellent la GTB, la gestion technique du bâtiment. Ce sont des systèmes complexes qu'on sait déjà gérer. Mais il va y avoir encore plus de technologies à gérer dans le bâtiment. On va appeler ça des infrastructures technologiques du bâtiment. Et ça, sur le plan technique, on doit savoir les comprendre et les gérer. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment intéressant comme évolution, c'est notre capacité à gérer les données qui vont être produites par l'exploitation du bâtiment et son usage. Donc analyser ces données pour mieux ajuster les services parce qu'on aura une bien meilleure connaissance de l'usage réel du bâtiment.
Est-ce que ça veut dire que désormais chaque bâtiment devrait être doté d'un data manager ?
Absolument, je crois que vous... Bon, alors on n'en parle pas encore aujourd'hui, on commence à en parler, un data scientist ou un data manager. Mais très clairement, va se développer dans nos métiers cette capacité à gérer les données du bâtiment, les données d'usage et les données d'exploitation. On en a déjà beaucoup dans le bâtiment. Les données de gestion technique, les données de consommation d'énergie, les données d'accès au bâtiment, combien il y a de personnes dans le bâtiment. Donc toutes ces données aujourd'hui, elles sont déjà disponibles dans le bâtiment. Et c'est notre capacité à analyser ces données de façon transverse et dans le temps qui fait qu'on va pouvoir développer de nouveaux services et être plus performant sur les services qu'on propose déjà à nos clients.
Donc toujours avec l'intermédiation d'un être humain. Est-ce que demain, le bâtiment intelligent pourra être totalement autonome ?
Alors je trouve que c'est une excellente question. Justement, il faut bien... garder à l'esprit que un bâtiment intelligent n'existe pas s'il n'y a pas de gestionnaire intelligent. Et donc, bien au contraire, on va avoir besoin de plus d'humains. Plus d'humains sur deux volets. Le premier volet, c'est, comme on le disait tout à l'heure, cette capacité à gérer ces données qui sont produites par le bâtiment, à les analyser et à mettre en place des plans d'action suite à l'analyse de ces données. Donc ça, c'est un premier domaine de data management, de data scientist. Mais derrière, c'est surtout de travailler sur le ciblage de ces nouveaux services sur l'expérience utilisateur. Le cœur du sujet, c'est l'utilisateur, c'est pas la technologie. C'est comment on utilise la technologie pour servir l'utilisateur. Donc quelque part, avec cette technologie et le numérique, on va paradoxalement se rapprocher de l'utilisateur et mieux le servir.
David, Ernest, merci. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur innovation et énergie chez Vinci Facilities.
Merci Lila. On revient dans un instant. Notre passion selon Sonnette, on va parler d'art et d'histoire dans le jeu vidéo. À tout de suite sur BFM Business.